Allez, on passe tout de suite, justement, messieurs les économistes, je me tourne vers vous. Bah oui, vous êtes un peu seigneur météo de Carlos, les économistes, les gouvernements, les grandes institutions comme le FMI. On a l'impression qu'elles planchent tous les jours pour savoir si l'économie va connaître des tempêtes, des nuages, du soleil, l'impact de la guerre en Iran a tout remis à zéro. On annonce une sorte de ciel morose, très morose. Alors Wilfried, expliquez-nous l'envers du décor. C'est-à-dire que vous, quand vous avez ces événements, comme ceux qui viennent de se passer, est-ce que vous faites comme les gens du FMI et autres? Est-ce que vous êtes en train de reprendre vos modèles? Vous allez sur votre ordinateur, vous changez tous les chiffres?
On considère évidemment l'impact, hein, bien sûr. Ce qui est très difficile, c'est d'être déjà au clair sur les tendances préalables au choc. C'est-à-dire que l'économie est choqué par cet événement considérable quand même qui est la guerre en Iran.
Considérable.
Oui, parce qu'en fait, elle.
Déjà, c'est important le mot vous choisissez le mot.
Oui, parce qu'en fait, on est vraiment sur une perturbation à la fois des prix et potentiellement de l'offre. Donc c'est ça qui est très important, c'est comment l'économie peut s'ajuster à ce genre d'offre, mais surtout. Comment est-ce que on identifie bien les tendances telles qu'elles étaient avant? Est-ce qu'elles vont être renforcées? Est-ce qu'à l'inverse, ce sont des tendances qui vont être complètement renversées par ce choc? Et le premier élément, c'est on était sur des tendances qui étaient des tendances au ralentissement de l'économie mondiale. Seuls les États-Unis tenaient à peu près à leur rang dans le moteur de croissance. Et encore, mais
tiré par l'IA avec la croissance en K.
Exactement, mais néanmoins, on avait ce moteur américain qui certes décélérait mais restait là, mais plus véritablement de relais. Et puis le deuxième élément, et ça je sais que ça fait partie de nos points d'accord, mon cher Marc, on était sur une tendance de désinflation. On était sur une tendance assez profonde de baisse de la dynamique de prix. Évidemment, on a à la fois la tendance au ralentissement qui est accélérée par ce choc. Très fortement. Et là, on voit une espèce de tétanie quand même dans les enquêtes d'opinion. Alors, ça ne se voit pas encore trop dans les chiffres durs de l'économie, mais dans les enquêtes d'opinion.
Ça ne se voit pas du tout dans les résultats des entreprises. C'est ça qui est incroyable. Hein.
Non, parce que dans. En fait, ça dépend des entreprises.
Je vais revenir vers vous.
Ça dépend véritablement des entreprises. Et en revanche, on a des effets extraordinairement complexes. Et là, c'est très important à les calculer finement. Sur la dynamique de prix. Parce qu'effectivement, ça renforce le côté, la pression à la hausse des prix, mais ça ne crée pas pour autant une dynamique inflationniste. Et donc, effectivement, on va être sur un ralentissement de l'économie mondiale, une augmentation des coûts et des frictions généralisées dans l'économie mondiale, mais pas nécessairement de pression
inflationniste. Mais vous, Wilfried Galland, par exemple, vous avez repris tous vos chiffres et vous avez baissé, par exemple, vos prévisions, sur la zone euro, par exemple. Vous avez baissé de combien sur la zone euro de...
La zone euro, moi, je les ai baissées d'à peu près 0,5.
Ah oui, 0,5.
Bah, j'étais un peu en dessous de 1 et je suis maintenant...
Parce que le 0,5. FMI ne nous dit pas ça, hein, en croissance mondiale et autres. Ils nous disent plutôt un impact de 0,2 à 0,4%.
Quand vous regardez par exemple sur la zone euro les prévisions de l'Allemagne, on peut dire que si on s'en sort à 0,5, on sera pas mal quand même.
D'accord. Patrice, vous avez refait ce boulot aussi, vous,
oui.
Et vous le faites en permanence, j'imagine, non?
Alors, on va travailler avec peut-être dans cette crise particulière, ouais. Parce que à chaque fois, c'est toujours un peu la même méthode, mais il faut tenir compte du point dans lequel on part, et puis en fait de la nature de la crise. Et là, on voyait très bien, effectivement, en début de crise, qu'il va y avoir des seuils. Et c'est les seuils de tolérance, en fait. On peut absorber, et l'économie telle qu'elle se terminait en 2025, elle pouvait absorber un certain nombre de chocs relativement modérés. Et puis après, si on passe, et là, on retrouve le scénario FMI, BCE, et on va faire la même chose, effectivement, dans le cadre d'économistes privés, on va travailler avec des seuils de peine. C'est-à-dire, si le pétrole, reste dans une fourchette 100-120 $ sur tout le reste de l'année, combien ça coûte en termes de croissance, etc. D'accord. Si on passe au-delà de cette fourchette de 120 $, 150 $. Et en fait, c'est une démarche qu'on retrouve. BCE et FMI ont travaillé là-dessus.
Donc plusieurs scénarios, et principalement l'élément clé du scénario, pour rebondir un peu sur ce que disait Wilfried aussi, c'est le pétrole, parce que le pétrole pourrait modifier, si la hausse durait, le scénario de hausse des prix temporaire en inflation durable.
Tout à fait. C'est le pétrole, le prix, Mais derrière le prix, c'est la durée, effectivement, okay, qui est importante, parce que plus, en fait, les mécanismes de transmission, on peut avoir un choc de prix qui est relativement court et un contre-choc derrière. Mais si on reste longtemps, on a plus de chances d'avoir une transmission des prix globaux vers des prix cœur, et c'est là où, effectivement, la mécanique des banques centrales est interpellée.
Mais sauf que j'imagine, comme pour Montpensier Arbevel, les clients de l'Union bancaire privée, quand ils vous voient, ils vous disent, bon, c'est sympa de nous donner 10 scénarios, mais quel est le vôtre? Alors, moi, je vous demande
déjà,
quel est le vôtre.
10, mais de toute façon, effectivement, c'est d'orienter, et même pour les clients comme pour nous, en termes de gestion, c'est d'orienter vers le scénario qui prévoit à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on se trouve avec une prévision qui est un peu plus pessimiste que celle du FMI. Le FMI, c'est globalement 3,1%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Nous, on travaillera sur quelque chose qui est juste en dessous de 3%, 2,7, 2,8%. Pourquoi? Parce que, notamment, effectivement, je rejoins Wilfried là-dessus, la zone euro est certainement impactée. L'Asie, hors dehors de la Chine, et la zone euro sont les plus impactés. Et les plus impactés, ça veut dire ce sont eux qui vont voir le plus de reprise de l'inflation et de perte de croissance. Et l'Allemagne, effectivement, est très exposée. Et après, on va trouver des pays dans l'Asie. On va trouver la Corée, Taïwan, même s'il y a de la techno, et la Malaisie, des pays comme ceci.
On va s'en sortir, nous, Wilfried ?
On va faire ce qu'on sait parfaitement faire dans notre beau continent, dans notre beau pays, c'est-à-dire on va patauger.
Mais nous, par exemple, on va être à 0,5% en France ou non on a, parce qu'on a un acquis de croissance quand même.
Alors, la France fait partie des pays qui sont les moins touchés, d'une certaine manière, parce qu'on est moins ouvert sur le commerce extérieur que l'Allemagne. Mais on va probablement être en dessous de 0,8-0,7. Hein, donc, on sera un petit peu au-dessus de l'Allemagne, mais pas beaucoup plus.
Pierre, le gouvernement a révisé de 1 à 0,9.
Ouais. Hein. Pierre, quand je disais on ne voit pas dans les résultats des entreprises, vous avez tiqué.
Ouais, parce que en fait, donc là, dans ce genre de situation, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés en première ligne. C'est bien évidemment la consommation discrétionnaire, et également l'immobilier, la construction neuve, par exemple. Voilà. Donc là, sur la consommation discrétionnaire, on a eu des résultats récemment là qui ont prouvé ça. Hein, donc on a eu LVMH, Hermès moins 10 hein, le jour de la publication, et ils disent que oui, le Moyen-Orient, ça, si je prends le cas d'LVMH, enlève déjà 1% de croissance. Donc pour l'instant, c'est vraiment le conflit est très récent.
C'est ça.
Mais c'est déjà 1%. Donc maintenant, si ça dure, ça peut être 2, 3, 4. Et là,
comprends.
Ça peut. Donc la consommation discrétionnaire, ils sont vraiment en première ligne. Et là, on voit déjà l'impact.
Vous ressentez la même chose?
Alors,
Virginie,
oui, effectivement, les sociétés de luxe, pour le moment, on n'est qu'au début des publications, donc on ne peut pas conclure, hein, c'est trop récent. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment. Là aussi, on est encore au début, mais enfin bon, pour discuter pas mal avec les compagnies, c'est relax.
C'est ça, on ne sent pas du tout de panique, même dans leur prévision.
Non,
il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de self-warning.
Évidemment, on a eu la période. Alors, eux, c'est plutôt sur la supply chain.
Bien sûr.
C'est les risques d'approvisionnement. Et après, les effets prix, c'est selon les industries. Hein, vraiment, c'est très. Il y a les effets volume, prix, etc. Mais sur la supply chain, ils ont énormément appris.
C'est les chaînes d'approvisionnement.
Oui, voilà. Après la pandémie, donc ils se sont quand même beaucoup plus diversifiés. Ils sont dans une situation.
Ils ont eu tellement de crises qu'ils se sont adaptés.
Ils s'adaptent, ils ont cette facilité d'adaptation qui est plus importante.